Merci d'être le Dieu de notre salut et de notre espérance. Merci d'être le Dieu qui écoute nos prières. C'est toi qui nous soutiens. C'est toi qui conduis nos vies. C'est toi qui te lèves pour combattre en notre faveur. Éternel, ton nom est grand. Ton nom est glorieux. Tu ne nous as pas appelés à toi pour nous abandonner. Oh, que diraient les peuples qui ne te connaissent pas si tu n'interviens pas dans nos vies? Ils diraient, l'Éternel n'existe pas. Éternel, mais nous, nous savons que tu existes, que tu es au ciel, assis sur ton trône, et que tu contrôles tout, tout ce qui se passe sur la terre. Tu conduis chacun de nos pas. Même pas un seul cheveu de nos têtes ne tombe à terre que tu ne connaisses. Tu es bon, Éternel notre Dieu. Cet après-midi, nous sommes venus en ces lieux de rendez-vous pour célébrer ton nom. Nous ne te chantons pas simplement parce que tout va bien. Nous te chantons même quand tout va mal. Nous te rendons gloire et honneur même quand tout va de travers. Parce que nous savons que tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Merci Jésus d'utiliser nos difficultés, nos épreuves et nos combats pour nous démontrer à quel point tu es grand, tu es puissant, à quel point tu agis, même sur les situations qui semblent désespérées, pour que nos bouches s'ouvrent et chantent ton nom et chantent un cantique nouveau. Te dédions ce temps, Éternel notre Dieu. Bénis ton peuple. Te prions déjà pour ton serviteur, le pasteur Paulin, pour que là où il est, tu étendes ta main et que tu les touches. Tu les touches pour le restaurer, pour le rétablir. La Bible dit que celui qui espère en l'Éternel renouvelle ses forces. Renouvelle-lui les forces dont il a besoin pour continuer à te servir. Qu'il prenne l'envol comme les aigles, Éternel, notre Dieu. Oh Seigneur, par la puissance de ton esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, te prions de rendre à son corps la vie, la guérison et la restauration. Merci pour ton Église, pour mon frère et pour ma sœur qui s'est déplacé pour écouter ta parole. Seigneur, je prie que tu déposes même un seul mot dans les cœurs de quelqu'un cet après-midi. Une parole de sagesse, une parole de connaissance. Que les questionnements avec lesquels nous sommes venus en ces lieux puissent recevoir des réponses auprès de toi. Éclaire-nous, Éternel. Bénis ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Ainsi nous prions au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur, et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, équipe de louanges. Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Je veux entendre un bon Amen. C'est ça. Dieu est bon. Vous savez, il y a des moments où je me demande, je n'ai pas à faire des présentations, je n'ai pas à vous saluer. Alléluia. Donc, cet après-midi, nous avons le privilège d'accueillir le pasteur de l'église de l'Arche de l'Éternel, le pasteur de l'église de la Nouvelle-Jérusalem à Leuven. Et à Mons. Alléluia! C'est ce que le pasteur aurait dit s'il était là. Mais bon, je me sens à l'aise et je voudrais vous apporter les salutations de l'église de l'Arche. Quand ils ont su que je venais ici, certains ont voulu même nous accompagner. Mais comme ce n'était pas prévu, nous sommes venus seuls, mais en tout cas, vos frères et sœurs de l'Arche sont avec vous. Alléluia. Amen. Et vos soutiens dans la prière et nous soutenons également le pasteur dans la prière. Nous savons que Dieu va le restaurer et que Dieu va continuer à se servir de lui pour accomplir la mission qu'il lui a donnée. Amen. Comme je disais, il y a des moments où je me demande comment les gens peuvent vivre sans Dieu. Moi, je ne sais pas. Comment on peut vivre sans Dieu? Mais je voudrais aussi dire, il y a des gens qui sont à l'église, il y a des gens qui sont dans la vie chrétienne, mais qui sont dans une espèce de légèreté dans les choses de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est une déclaration d'une puissance inouïe. Quoi que nous fassions, si le Seigneur n'est pas avec nous, tôt ou tard, on va échouer. Quoi que nous fassions, si le Seigneur ne nous soutient pas, nous aurons l'impression de réussir, mais à un moment donné, tout va s'écrouler. Nous avons besoin d'un Dieu immuable, d'un Dieu qui ne change pas au milieu d'un monde qui fluctue, d'un monde qui change constamment. Si vous regardez aujourd'hui, nous sommes dans une crise économique, comme disent les gens du monde, parce que pour nous, enfants de Dieu, la Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration, n'appelez pas crise ce que le monde appelle crise, alléluia. Mais pour parler le langage des humains, des hommes de ce monde, on traverse une crise sans précédent, une crise profonde. La plupart des gens viennent avec des théories économiques, macroéconomie, microéconomie pour la relance, pour les investissements. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes obligés de constater que parfois leurs théories sont contradictoires. Alléluia. Mais si Dieu aujourd'hui se lève pour énoncer un principe, juste un, la crise va passer. Juste un, le redressement sera au rendez-vous. Alléluia. Il est le Dieu qui contrôle toutes choses. Nous avons besoin de nous attacher à lui et d'être sérieux avec Dieu. D'être sérieux avec Dieu. Pas de jouer avec Dieu, pas de faire semblant avec Dieu, mais d'être sérieux avec Dieu. Alléluia. Pour que sa grâce vienne sur nous. Pour que sa bénédiction repose sur nous. Oh Dieu, moi je ne sais pas comment on peut vivre sans Dieu. Moi je ne sais pas. Comment on peut s'en sortir sans Dieu? Même quand je suis découragé et que j'entends la parole, je suis encouragé. Ce soir, je suis venu encourager quelqu'un. Alléluia! Vous savez, quand le pasteur m'a demandé de venir, d'abord j'ai eu beaucoup de difficultés finalement à me dire, qu'est-ce que je vais partager avec mes frères et sœurs? Je suis dans un exercice, ces derniers temps, de prêcher très court. Alors, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Alléluia! Alors, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans mon esprit, mais ce que nous allons partager ici, je crois que nous avons même déjà partagé ça. Mais c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, ne fût-ce que pour le rappeler à une personne. À une personne. Si une personne reçoit quelque chose cet après-midi de son message, alors j'aurai accompli ma mission de la part du Seigneur. Alléluia. Nous lirons un texte bien connu dans Deux Rois. Deux Rois. Au chapitre 8. À partir du verset premier, bien sûr. Deux Rois, chapitre 8, nous lirons à partir du verset premier. Mais bien aimés frères et sœurs, je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé. Je crois qu'à l'église de Mons, non. Je crois que vous, non. Mais en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas si ça ne vous est jamais arrivé de sentir à un moment donné le besoin de tout abandonner. Tu te dis, mais pourquoi je prie? Je ne vois rien. Comme disait Gédéon. Pourquoi ces choses m'arrivent-elles, nous arrivent-elles? Où sont les miracles que nos pères nous racontent dans la parole de Dieu? Si Dieu était avec nous, pourquoi nous sommes dans telle ou telle situation, dans telle ou telle épreuve, dans tel ou tel combat. Pourquoi n'intervient-il pas? Pourquoi ne nous secourt-il pas? Il y a des moments où on a cette envie de tout abandonner. Et même de dire, ce matin je n'irai pas à l'église. Alléluia. Si vous êtes comme moi, il y a des moments, je vous dis ça. Je vous dis ça pour que des gens soient sincères maintenant pour dire moi aussi. Parce que si je ne dis pas ça, personne ne va l'accepter. Alléluia. Il y a des moments. Soyons vrais. Il y a des moments où tu te dis, mais Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es le véritable Dieu? Qui me dit que les autres qui invoquent d'autres divinités ne sont pas dans la vérité? Non, l'apôtre Jean, il dit, nous sommes dans le véritable. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quel que soit ce que tu traverses comme situation, béni soit le nom du Seigneur parce que tu es dans le véritable. Tu es dans le véritable. Alléluia. Dieu a donné la preuve que Jésus est Seigneur en le ressuscitant d'entre les morts. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi en lui serait vaine. Mais parce qu'il est ressuscité, nous pouvons avoir une espérance vivante. Même si les Madianites nous attaquent, même si les épreuves viennent de tous côtés, nous savons une chose. Soit Dieu est en train de nous faire passer par l'épreuve de la foi, parce que ta foi, tôt ou tard, sera éprouvée. Un enfant de Dieu dont la foi n'est pas éprouvée ne peut pas consolider sa foi. Dieu fera que ta foi passe par le feu. Alléluia. Pour éprouver la foi d'Abraham, il lui a dit, donne-moi ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes. Offre-le en holocauste pour moi sur le mont Morija. C'est une demande insolite. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, lequel fils sur lequel reposaient les promesses de Dieu. Quelle aurait été ta réaction? Quelle aurait été ma réaction? Peut-être nous allions dire, non, ça c'est pas Dieu qui a parlé. C'est pas possible. C'est pourquoi le chrétien doit exercer son oreille pour finalement être en mesure de reconnaître la voix de Dieu. Parce qu'il y a des demandes que Dieu te fera, que tu peux mettre sur le compte de Satan. Donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Dieu va éprouver ta foi. Alléluia. Peut-être par un temps d'attente, non. Tu pries depuis des années, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dieu est en train d'éprouver ta foi. Alléluia. Le temps va passer, mais si tu demeures dans la foi, tu peux te lever pour dire un jour, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alors Dieu se levera. C'est pourquoi il dit à Habacuc, si la promesse tarde, parce qu'il y a probabilité que ça puisse tarder, il y a possibilité que la promesse de Dieu puisse tarder. Attends, attends, sois à ton poste. Alléluia. Et attends parce que Dieu ne peut pas mentir. Même quand tu as envie de tout abandonner, réagis comme l'apôtre Pierre qui a dit, à qui irions-nous? Seigneur, si j'abandonne, si je ne prie plus, si je ne te sers plus, si je ne te suis plus, finalement je vais suivre qui? Je vais aller auprès de qui? Qui a les paroles de la vie? Seigneur, je tiendrai bon jusqu'à ce que mon salut paraisse comme l'aurore. Jusqu'à ce que ma délivrance soit au rendez-vous, je tiendrai ferme dans la foi. Et je continuerai à m'attendre à toi. Alléluia. Alléluia. N'abandonne point. Ne laisse pas baisser les bras. Parce que ton salut sera au rendez-vous. Gédéon a dit, oh mon Dieu, avec quoi délivrerai-je Israël? Je suis le plus petit, je suis le plus minable, je suis le plus médiocre. Je n'ai jamais vu de miracle parce que, il dit, mais où sont les miracles que nous racontent nos pères dans la Bible? Lui-même n'avait pas encore été témoin d'un véritable miracle. Il ne savait pas que Dieu allait l'utiliser parce qu'il allait lui dire d'affronter 135 000 hommes. Lui, il avait levé une armée de 32 000 hommes.
un rapport de un soldat israélite contre 4. Mais Dieu lui dit, c'est trop nombreux, tu réduis de 32 000 hommes à 300. Le rapport était de un israélite contre 450 madianites. Alléluia! Pour que Gédéon voit la gloire de Dieu, pour que Gédéon voit le miracle de Dieu, et qu'il ne dise plus, mais où sont les miracles que nos pères nous ont racontés? Je voudrais dire à quelqu'un qui dit la même chose, où sont les miracles de la Bible? Tu es sur la liste. Alléluia. Le prochain sur la liste, ce sera toi. Dieu va se servir de toi. Dieu va utiliser quelque chose de glorieux. Alléluia. Pour que tu ne parles plus ainsi, parce que le miracle sera là. Alors nous nous attachons à Dieu. Deux Rois chapitre 8. À partir du verset 1er, Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. » Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tout le revenu du champ. » Depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Alléluia. On s'arrête un peu là. Je voudrais ce soir, je suis venu, je vous ai dit, je crois même vous avoir déjà partagé ça. Je crois même qu'il y a beaucoup de choses cet après-midi d'une fois de plus que je vais répéter. Mais c'est peut-être pour une personne. Le thème de l'exhortation de cet après-midi, je l'ai intitulé « Réclamez votre héritage ». Alléluia. Réclamez votre héritage. Je voudrais que cet après-midi, quelqu'un, c'est pas nous tous, nous comprenions que nous avons un héritage. Nous comprenions que nous devons entrer dans notre héritage. Nous ne devons plus tourner en rond. Nous ne devons plus vivre les mêmes histoires, la routine, non. Je suis venu pour réveiller l'esprit de quelqu'un pour qu'aujourd'hui il dise non, c'est assez. Je veux entrer dans mon héritage. Alléluia. Je veux posséder mon héritage. Il faut que ton esprit se réveille. Vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont un héritage dans les églises. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont un héritage. Il y a des gens qui pensent que, oui, je sais que j'ai un héritage, mais qui s'imaginent que cet héritage va leur tomber sur les bras comme ça. Ça va venir. Dieu m'a déjà donné un héritage. Mon père a déjà donné un héritage. Ça arrivera, qu'on le veuille ou pas. Il y a des gens qui parfois ne comprennent pas qu'il est déjà temps, il est temps qu'ils entrent dans leur héritage. Alléluia! Il y a un moment donné, nous devons cesser avec cette modestie de dire, Dieu me bénira l'année prochaine. Il y a un moment où tu t'élèves pour dire, il est temps, c'est maintenant que je dois entrer dans mon héritage. Alléluia! Pourquoi est-ce que la plupart d'entre nous, nous croyons que Dieu ne va nous bénir que demain? Quand Jésus vient ressusciter Lazare, la foi des sœurs de Lazare était compartimentée. Oh Seigneur, si tu avais été ici il y a quelques jours, notre frère ne serait pas mort. Jésus leur dit, mais je suis le chemin, je suis la résurrection, je suis le... Oh oui Seigneur, nous savons que tu les ressusciteras au dernier jour. Il ne faut pas que ta foi soit tournée seulement vers le passé, Il ne faut pas que ta foi soit tournée vers l'avenir. Il faut que ta foi soit aussi la foi du présent. Il faut que tu dises, Seigneur, c'est maintenant le temps favorable. C'est aujourd'hui le jour favorable. C'est maintenant le temps pour moi. Le temps s'est écoulé. C'est plus que temps maintenant pour moi d'entrer dans mon héritage et de posséder ce qui me revient de toi. Alléluia! Réclamez votre héritage. Parfois, notre héritage a été confisqué, a été volé, a été pillé. Par qui?
Mais par le diable. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, dérober, détruire, égorger. Parfois, le diable prend ce qui est à nous, le confisque, et nous nous disons oui. C'est pas grave. En tout cas, l'année prochaine, Dieu va me bénir. L'année d'après, Dieu va me bénir. Et le diable, il se dit, très bien, il te bénira. Alléluia. Il y a un moment où il y a un déclic dans ton esprit qui se fait pour dire, non, pourquoi j'attendrai 2014? Pourquoi j'attendrai 2018? Le Dieu que je sers est aussi le Dieu du présent. Lorsqu'il s'est révélé à son peuple, il a dit, je suis celui, je m'appelle, je suis. Il n'a pas dit, je m'appelle, je serai. Il n'a pas dit, je m'appelle, j'étais. Il a dit, je m'appelle, je suis. Alléluia! Je suis le Dieu du présent. Il y a des moments, j'ai dit à Dieu dans la prière, Seigneur, que vont me servir les bénédictions quand je serai seulement au ciel? Ça va me servir à quoi? Au ciel, je n'aurai pas besoin de quelques bénédictions que ce soit, parce que je serai déjà changé, je serai déjà transformé. Alléluia! Je serai tout le temps dans la louange et dans l'adoration. Je n'aurai plus besoin de bénédictions, je n'aurai plus besoin de miracles. Seigneur, si je te dis que c'est maintenant, j'ai besoin du miracle maintenant, j'ai besoin de ma bénédiction maintenant. Je sais que tu es là, tu es le Dieu qui s'appelle Je suis, c'est maintenant. Éternel, agis en ma faveur, c'est maintenant. Alléluia! Nous devons réclamer notre héritage. Nous avons un héritage. Je ne parle pas de l'héritage de tes parents biologiques. Peut-être que tes parents biologiques étaient aussi pauvres que les miens. Alléluia. Alléluia. Il y a des enfants, il y a des gens dont les parents sont extrêmement riches, qui ont hérité peut-être des maisons, qui ont hérité des biens. Tout ça, c'est bien beau. Il y a des gens dont les parents sont pauvres ou étaient pauvres et qui n'ont pas reçu d'héritage. Je ne parle pas de l'héritage que nous pouvons acquérir de nos parents biologiques, alléluia, mais je parle d'un héritage spécial, l'héritage que dont nous avons le droit, l'héritage sur lequel nous avons le droit, parce que cet héritage nous vient non pas de nos pères biologiques, mais de celui qui a été appelé, et qui s'appelle, alléluia, notre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que c'est qu'un héritage? Un héritage, c'est quelque chose qui te revient de droit. Ok? Qui te revient de droit, de juré ou de facto. Je vous dis, de juré, c'est-à-dire légalement, du point de vue de la loi. Si tu es le fils de Yahvé, si Yahvé meurt, légalement, de juré, tu as le droit d'hériter, n'est-ce pas? Mais il arrive aussi qu'on soit héritier de facto, par le fait même. Par exemple, j'entendais l'histoire d'une dame dernièrement qui travaillait, qui aidait une vieille dame à domicile chez elle à la maison. Et elle était tellement bien avec cette dame que la dame a écrit sur son testament que cette femme-là, la femme de ménage, était l'héritière de tout ce qu'elle allait lui léguer. Et elle est décédée. Et cette dame est entrée en possession, non pas légalement, non pas par filiation, mais par le fait même. Alléluia! Nous avons un héritage. C'est pourquoi parfois, mais frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse. Quand Dieu te place quelque part, que tu sois femme de ménage, ingénieur, professeur d'université, enseignante à l'école, sois bien où tu es. Sois bien où tu es. Et avec les gens qui sont autour de toi. Je ne comprends pas que même dans les églises, nous qui nous faisons appeler les enfants de Dieu, nous avons des problèmes les uns avec les autres. Nous ne nous parlons même pas. Il y a des gens qui viennent bien portants à l'église et qui sortent avec des torticolis parce qu'ils ne peuvent pas regarder à gauche. Il y a une sœur qui est à gauche. Il ne peut pas tourner sa tête vers là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne peux pas comprendre cela. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Alléluia. Tu ne sais pas qui Dieu va utiliser pour te bénir.
Lorsque Élie était en train de fuir la colère de Jézabel, Dieu lui a dit, va à Kérit. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Vous savez, le corbeau, c'est un oiseau sale. C'est un animal impur. Je parle à quelqu'un. Mais Dieu a dit à Élie, je ne vais pas t'envoyer de la nourriture par les moyens des anges. Je ne vais pas t'envoyer de la nourriture par les moyens des hommes bien habillés, mais je t'enverrai de la nourriture par les corbeaux. Un animal impur, un animal sale. Élie aurait pu mépriser le corbeau s'il n'avait pas été prévenu par Dieu. Et heureusement, Dieu lui avait dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Quand Dieu donne des ordres, ils seront exécutés, même par la nature, même par les oiseaux. Je voudrais dire à quelqu'un déjà cet après-midi, un ordre est donné à ton sujet. Un ordre est donné à ton sujet. Un ordre est déjà donné à ton sujet. Alléluia. Et c'est un animal impur qui lui apportait. Mais il lui a dit, va à Kérit. Élie ne devait pas être n'importe où. Il y a des moments, ta bénédiction est en ces lieux quand on dit il y a une réunion de prière. Si en ce moment-là, tu n'es pas au lieu du rendez-vous, parce que le GPS des corbeaux était géolocalisé sur Kérit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, il y avait une programmation dans le cerveau des corbeaux. Ah, yeah, 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 yeah. Alléluia. Quand vous allez quelque part et que vous avez un GPS, qu'est-ce que le GPS fait? Vous mettez la destination, n'est-ce pas? Et te dit le calcul d'itinéraire est terminé. C'est fini. Que tu tournes à gauche, que tu tournes à droite, il te dira tourne à gauche, tourne à droite. Tu te permets de reprendre la droite. Jusqu'au moment où il te dit ta destination se trouve à droite à 50 mètres. Vous êtes arrivé à destination. Il y a un frère de l'église qui a dit, pasteur, je dois changer de GPS. Je dis, pourquoi? Il dit, il y a la voix d'un homme et je n'aime pas les voix des hommes. Alléluia! Il faut des GPS avec des voix de femmes. Donc, c'était géolocalisé. Aujourd'hui, on parle de la géolocalisation. Je pourrais entrer en astrophysique, mais ça n'a aucune espèce d'importance. C'est-à-dire, Élie devait être à un endroit précis. À cet endroit-là, Élie devait boire l'eau du torrent de Kérit, pas l'eau d'un autre torrent. Vous savez que le Jourdain était alimenté par plusieurs affluents, mais Dieu lui a dit, tu vas à l'affluent de Kérit. C'est là que tu vas te cacher. Il s'est caché là-bas. Akab le recherchait de partout, il l'a pas trouvé, parce que là où Dieu nous cache, nous sommes en sécurité. Il devait boire l'eau du torrent, mais dans le même temps, on ne peut pas vivre qu'en buvant de l'eau. Il y avait une colonne de corbeaux, le matin, qui venait géolocalisation avec le pain. Il tournait, il venait déposer le pain, il venait déposer la viande. Alléluia! Le matin et le soir. Le matin et le soir. C'est comme ça que quand l'eau du Kérit a séché, Dieu lui a dit, maintenant tu vas quitter Kérit. Il y a un autre endroit où j'ai ordonné à quelqu'un de te nourrir. Va à Sarepta. Vous savez, l'eau du Kérit a séché parce qu'il n'y avait plus la pluie. Ce qui alimente, ce qui est sur la terre, c'est ce qui vient d'en haut. Tu peux avoir un bon compte en banque. Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, ce compte en banque séchera. Tu peux tout posséder, mais si ça ne vient pas d'en haut, si le ciel est fermé, si le ciel n'est pas ouvert, tu peux avoir des torrents, tu peux avoir des comptes en banque fournis. Tôt ou tard, ils sécheront. Plus à Dieu que le ciel soit ouvert. Parce que quand la pluie tombe, ça alimente le torrent. Et quand le torrent, il y a vaporisation, condensation, il y a la pluie et le cycle de l'eau est formé. Et il y a la richesse des pas, et il y a la vie. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu glorieux. Nous avons un Dieu glorieux. Alléluia! Et nous avons un Dieu. C'est Dieu, le Dieu-là dont je vous parle en très peu de mots. C'est celui-là qui est notre Père. Tu as un héritage. Tu as un héritage de par le fait que tu as été adopté. Enfant de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui reçoivent l'héritage par adoption. Quand vous regardez des stars de cinéma, ils vont en Afrique adopter des petits noirs, des petits blacks. Alléluia! Ce petit black que tu vois là, il a le même droit qu'un enfant qui est né de pur sang. Il a droit à l'héritage. Héritage par adoption. Alléluia.
héritage par filiation. Nous avons un héritage. Laissez-moi vous répéter, nous avons un héritage. Nous avons un héritage. Alors je voudrais dire à quelqu'un, ne vis pas à côté de cet héritage. Ne vis pas en dehors de cet héritage. Ne vis pas en dessein de cet héritage. Vis dans l'héritage. Quand tu vis dans l'héritage que ton Père Céleste a pour toi, tu vis dans l'abondance. Tu vis dans la joie. Tu vis dans la paix. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Il y en aura, mais tu es dans l'héritage.
Le drame, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est qu'un jour, nous mourrions et qu'au ciel, Dieu commence à nous montrer tout ce qui était réservé pour nous. Et vous avez raconté l'histoire de ce type qui est allé au ciel, non? Jamais. Il dort et il rêve qu'il est au ciel. Et au ciel, on vient l'accueillir, comme on le dit souvent, par l'apôtre Pierre. Et le ciel, c'est d'une beauté incroyable. Frère, je t'assure, il y a des gens, ils vont rater cet endroit merveilleux. Je ne sais pas moi, pour quelque chose qui ne vaut même pas la peine. Les rues sont pavées d'or. Il n'y a pas de factures d'électricité. Mon Dieu, Seigneur de gloire. Alléluia. Il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Rien du tout, frère. C'est la beauté. Alors, il voit au loin un hangar. Et la beauté du hangar contrastait avec la beauté de l'ensemble du ciel. Alors, il dit à l'apôtre Pierre, il dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce hangar? Pourquoi un vieux hangar comme ça au ciel? Il lui dit, oh non, il laisse tomber, c'est pas important. Il dit, non, moi je veux voir ce qu'il y a là-bas. Comme il insiste, il l'emmène, ils ouvrent les hangars. Et quand ils ouvrent les hangars, ils voient des étagères, des rayons et des rayons et des rayons à perte de vue. Et sur chaque rayon comme ça des étagères, il y avait une boîte en carton. Il s'approche et il voit sur une boîte un nom. Le nom de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il commence à circuler entre les rayons. Il commence à trouver sur les étagères des boîtes portant les noms des personnes qu'il connaît. Alors il demande à l'apôtre, il dit, est-ce qu'il y a une boîte où il y a mon nom? L'apôtre lui dit, oui, il n'y a pas de problème, je te conduis si tu veux. Il l'emmène et puis effectivement il arrive, il voit Nathalie. Alléluia. Alors Nathalie dit, ah je veux, qu'est-ce qu'il y a dedans? L'apôtre lui dit, oh laisse tomber Nathalie. Non, je veux ouvrir, je veux voir ce qu'il y a dedans. Finalement, l'apôtre lui permet d'ouvrir, il ouvre, qu'est-ce qu'il y avait dans le paquet? Il n'y avait que des petits bouts de papier. Et dans, sur chaque bout de papier était écrit le nom d'une bénédiction. Et le carton était pratiquement plein. Alors il dit à l'apôtre, il dit, mais pourquoi? Cette bénédiction, j'en avais besoin quand j'étais sur la terre. Cette autre, j'aurais pu l'avoir. L'apôtre lui dit, tu vois, tout ce qui est dedans ici, c'est des bénédictions qui étaient à toi. Pendant le temps où tu étais sur la terre, si tu étais en train de les réclamer dans la prière, quand tu pries, la boîte va s'ouvrir, une bénédiction vient vers toi. Si tu avais prié, si tu avais réclamé, si tu avais persévéré, ce carton serait vide. Je parle à quelqu'un. Donc, il est passé à côté d'énormément de bénédictions qui auraient pu faire sa joie sur la terre. Donc, il a vécu en dessous et en dessous et à côté de l'héritage qui lui était réservé. Moi, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas passer à côté de mon héritage. Vous savez, il y a des choses qui vous révolutionnent comme ça. Quand vous pensez qu'il y a aujourd'hui, présentement là, quelque chose dont vous avez besoin, mais qui est déjà donné, qui est déjà réservé dans votre paquet, dans votre carton. Mais ici sur la terre, oh, quand on dit c'est le moment de la prière, vous dites, oh, moi je suis fatigué, oh, c'est la télévision, oh, c'est ceci, oh, c'est cela, et le temps passe de toute façon, le Seigneur me bénira, s'il a décidé qu'il va me bénir, il me bénira. Non! Tu vas mourir, on t'emmènera au ciel, et tu vas pleurer devant toutes les bénédictions qui auraient été tes bénédictions. Il faut les réclamer. Il faut les faire sortir du paquet. C'est comme ça que la vie chrétienne devient un combat. Ce n'est plus de la blague, mes bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est plus de la rigolade. C'est une vie de consécration. C'est une vie de prière.
C'est une vie de jeûne. C'est une vie de combat. C'est une vie où on s'appuie sur les promesses de Dieu.
Alléluia.
Alléluia. Tu as un héritage. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit dans Romains? Vous allez lire avec moi. Romains, chapitre 8. Ah, j'aime beaucoup ça. Romains, chapitre 8. C'est un texte que nous connaissons bien. Versets 16 à 17. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui lisent la Bible, je ne sais pas comment ils la lisent. La Bible dit, hein, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit. Ok? C'est-à-dire, l'Esprit me confirme. L'Esprit m'assure. L'Esprit me dit avec certitude, avec assurance, que je suis qui? Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est-à-dire l'enfant du Créateur du ciel et de la terre. Je ne suis pas n'importe qui. Il dit, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est-à-dire, même si mon père ne m'a pas désiré, ça n'a aucune espèce d'importance. Même si ma mère m'a rejeté, m'a abandonné, ça n'a aucune espèce d'importance. Il y a quelqu'un qui ne m'a jamais abandonné, qui ne m'a jamais rejeté, qui m'a aimé, qui m'a conçu, qui m'a pensé et qui n'a pas honte de rendre témoignage que je suis son enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tel que tu es là, tu dois être convaincu d'une chose. On peut dire tout ce qu'on veut sur toi. Il faut que tu sois convaincu d'une chose. Tu es enfant de Dieu. Et la Bible dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous avons droit à un héritage. Alléluia. Mais l'héritage de qui? Ce n'est pas de ton père biologique. Ici, on parle de l'héritage de notre Père céleste. Il dit, si je suis enfant, ça a une conséquence, ça implique que je suis héritier de mon Père Céleste. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Ce qui est formidable. Il dit, mais si je suis héritier de Dieu, je suis aussi co-héritier avec Christ. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est-à-dire, si Christ est ressuscité, la résurrection étant un héritage de Jésus, je partagerai ce même héritage, je ressusciterai. Si Christ a été roi, c'est le même héritage que je partagerai, l'onction reposera sur moi. Si Christ était riche, le même héritage, je le partage avec Jésus-Christ. Alléluia! On a un héritage. Vous savez, dans un avion, il y a ce qu'on appelle le pilote et le copilote. Un avion ne peut pas voler sans copilote. Il y a les deux. Ils partagent les responsabilités. Donc, la Bible nous met au même rang. Il dit, vous êtes héritier de Dieu. Et vous êtes co-héritier avec Christ. C'est-à-dire, je suis enfant de Dieu. Oh Seigneur, tu peux m'insulter comme tu veux. Tu peux dire tout sur moi. Il y a une chose. Il y a une chose qui me rassure. Il y a une chose qui fait ma joie parfaite. C'est le fait que je suis enfant de Dieu. Une jeune fille avait été abusée dans sa jeunesse plusieurs fois. Elle était orpheline et on l'a placée dans plusieurs familles. Et pratiquement dans chaque famille où on l'avait placée, elle avait été abusée. Et elle a grandi avec une image très sale d'elle-même. Elle se sentait sale, elle se sentait meurtrie, brisée. Et un jour, elle donne sa vie à Jésus. Et toute sa vie, elle n'avait jamais osé se regarder dans un miroir. Elle avait l'impression qu'en se regardant dans le miroir, tout ce qu'elle a subi, tout ce qu'elle avait subi, tout ce qu'elle avait connu était écrit sur elle. Vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a des gens que nous rencontrons ici, mais qui ont des blessures profondes. Parfois même quand il sourit, mais il y a des larmes, il y a du sang qui coule là à l'intérieur. Et elle donne sa vie à Jésus, et même quand elle avait donné sa vie à Jésus, non, elle ne se regardait pas dans un miroir. Un jour elle dort, elle rêve, que le Seigneur vient vers elle avec un grand miroir. Et le Seigneur lui dit, regarde-toi dans ce miroir. Il dit, non Seigneur, je ne me suis jamais regardé dans un miroir. Je ne peux pas. Elle s'est mise à pleurer. Je ne peux pas. Et le Seigneur lui dit, regarde-toi. Il dit, je ne peux pas Seigneur. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'on peut parfois discuter avec lui. C'est bizarre, hein? Alléluia. Jonas, il dit à Dieu, je ne pars pas où tu m'envoies. J'aime des gens qui sont sincères avec Dieu. Alléluia. J'ai passé 2 ans de ma vie à étudier les religions du monde. Il n'y a que dans le christianisme que Dieu est appelé Père. Et on peut discuter avec son Père. C'est extraordinaire. Alléluia. On a lu l'histoire des filles de Selofchad qui sont allées voir Dieu. Moïse est allé voir Dieu en leur nom et Dieu a dit, elles ont raison. Vous avez déjà vu Dieu qui donne raison à un homme? Ce Dieu-là, il est merveilleux. Il est notre Père. Il est notre Père. Alléluia. Et Jésus lui dit, regarde-toi dans le miroir. Il dit, non. Le Seigneur insiste et dit, ok, Seigneur, je vais regarder. Et on met le miroir devant elle. Le Seigneur met le miroir devant elle. Elle regarde dans le miroir, mais elle ne reconnaît pas la personne qu'elle voyait. C'était une personne merveilleuse, très belle. C'est pas possible. Vous savez, quand nous nous regardons dans le miroir, nous voyons le reflet de notre personne. Elle regarde dans le miroir et elle voit quelqu'un d'autre. Et alors elle dit au Seigneur, il dit, mais c'est qui? Et le Seigneur lui dit, mais c'est toi. C'est toi tel que moi je te vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Il dit, tu te vois comme toi tu te vois. Les gens te voient comme tu es. Mais moi, le jour où tu as donné ta vie à Christ, le jour où tu es devenu enfant de Dieu, regarde l'image, regarde ton image, regarde comment moi je te vois, regarde comment moi je te vois, alléluia. Frères et sœurs, si nous pouvions nous voir dans le miroir de Dieu, hello, tu te verrais différemment. Tu lèverais tes mains vers le ciel pour dire, Seigneur, je te bénis parce que je suis une créature merveilleuse. Tu ne vas pas t'attarder sur les insultes des gens. Tu ne vas pas t'attarder sur les critiques des gens. Tu connais ton image. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Celui qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a transportés du royaume des ténèbres. Il nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Béni soit celui qui nous voit autrement, qui nous voit différemment. Tu peux avoir avorté. Tu peux avoir été, je ne sais comment, dans le passé. Le Seigneur t'a lavé. Le Seigneur t'a purifié. Le Seigneur t'a sanctifié. Le Seigneur te voit autrement. Et il dit pour toi, tu as droit à l'héritage. Vous voyez Gédéon. Dieu vient et lui dit, Gédéon, vaillant héros. Il dit quoi? Moi, vaillant héros? Je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus petite de la tribu de Manassé. Donc je suis le plus petit du petit au carré. Hello. Mais Dieu le voyait autrement. Dieu le voyait dans son miroir un héros. Un jour, j'étais dans une convention en Amérique. Vous savez, les Américains, c'est des gens qui te bouffent 2 poulets en 20 minutes. Hein? Il y en a qui bouffent 2 poulets en 20 minutes. Hein? Moi, là, c'est peut-être une cuisse ou deux. Hein? Limite. Alors, on a appelé les pasteurs et les bishops qui devaient prier pour les gens. Nous sommes allés. Il y avait des castards tout autour de moi. Alors quand les gens venaient là, ils partaient vers les castards. Moi j'étais là. J'ai dit, ces gens ne me connaissent pas. Alléluia. Je crois qu'à un moment donné, il y en a un qui a fait une erreur technique. Parce qu'il s'est avancé vers moi. Quand je lui ai imposé la main, alléluia, elle est tombée à presque 2 mètres. Sa délivrance a commencé à être opérée. Au bout de quelques minutes, la déviation qui se faisait. Alléluia. Je dis, ces gens, je me disais à moi-même, ces gens me voient dans le miroir des hommes. Mais là où j'étais, je me voyais dans le miroir de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah! Alléluia! Alléluia! Arrête de vivre avec des complexes. Dieu te voit différemment. Dieu te qualifie différemment. Tu es devenu enfant de Dieu. Et à cause de ça, tu as droit à l'héritage. devenu héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Tu as droit à l'héritage. La Bible nous dit que Dieu a donné les promesses à notre père Abraham. Par la foi en Jésus-Christ, nous devenons des fils et des filles d'Abraham. Et parce que nous sommes fils et filles d'Abraham par la foi en Jésus-Christ, nous devenons nous aussi héritiers des promesses que Dieu a données à Abraham. Je ne sais pas si quelqu'un saisit ça. Galates chapitre 3, verset 29. Tu vois, Marie-Claude, les gens, ils te regardent par la taille, ils ne viennent pas vers toi. Mais ils ne savent pas ce que tu es. Il faut savoir qui on est. Alléluia. Ta véritable identité n'est pas liée à ta tribu. Ta véritable identité n'est pas liée à ta famille ou à la position que tu occupes dans ta famille. Ta véritable identité est liée au fait que tu es enfant de Dieu. Et parce que tu es enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu. Et si tu es héritier de Dieu, tu es co-héritier avec Christ. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu par la foi en Christ, fils et fille d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. On peut commencer même au verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni blanc, ni noir. Alléluia. Ni jaune, ni rouge. Et toi tu me vois là, tu dis, le bishop, il a les teintes sombres. Je n'ai pas ces teintes sombres devant Dieu. J'ai un corps d'éclat. Ce n'est pas que je refuse ces teintes-là. Non, non. C'est-à-dire, tu peux parler de ça, mais moi, ça ne me dit rien. Il y a des gens dès qu'on dit, il est sombre. Tu dis quoi? On va se bagarrer. Écoute, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Je parle à quelqu'un. Alors il dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, écoutez, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ ici? Nous avons tous donné nos vies à Jésus. Donc, nous devenons légalement fils d'Abraham. Fille d'Abraham. Alléluia. Et à cause de ça, nous devenons héritiers des promesses qui ont été données à notre père Abraham. Et quand nous vivons dans ces promesses, nous allons vivre dans l'abondance. Nous allons vivre dans la puissance. Nous allons vivre dans l'élévation comme notre père Abraham. Nous avons un héritage. À cause de notre foi en Jésus-Christ. Un jour, Jésus entre dans le temple. Et dans le temple, nous sommes dans Luc au chapitre 13. Il y avait une femme qui était recourbée depuis 18 ans. Mes frères et sœurs, vous savez, souvent nous abandonnons parce qu'on n'a pas bien lu la Bible. Job a souffert pendant combien d'années? Pendant 40 ans. Ok? Ce n'était pas pendant un an, pendant 10 ans, pendant 40 ans. Il a tenu bon dans la foi. Je parle à quelqu'un. 40 ans. Après, Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Dieu lui a donné 3 filles dont il est dit qu'elles étaient les plus belles de tout le pays. Kétia, Jemima et Keren. Et Dieu lui a donné après cela de vivre 140 ans. Parce que quand Dieu veut te consoler, Dieu va te donner la bénédiction, te prolonger les jours pour que tu sois consolé et que tu jouisses de la bénédiction. C'est pourquoi le nombre d'années que tu passes là, tu dis ça fait 10 ans. Tiens bon. Quand Dieu va te visiter, il te prolongera les années pour que tu jouisses de la bénédiction. Joseph a reçu les visions de Dieu, les songes. À quel âge? À 17 ans. Après 17 ans, sa vie a commencé à basculer. Jusqu'à aller en prison. Hello? Suivez ici. Hello? Il est sorti de la prison à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire pendant 13 ans de sa vie, les choses sont allées de mal en pis. Mais quand il est sorti de la prison à l'âge de 30 ans, c'est pour devenir premier ministre. Et après, il a vécu pendant 110 ans. Nous calculons souvent par rapport à quelle échelle. Il y a des bénédictions que Dieu va me donner à 62 ans, mais parce qu'elles vont nécessiter que j'en jouisse, Dieu devra me prolonger la vie. Je ne mourrai pas vite. Si toi tu veux mourir vite, c'est ton problème. Hello! Cette femme était au temple depuis 18 ans. 18 ans, elle venait toujours. Il faut le faire. 18 ans. Avec la même infirmité. Alors, un jour, Jésus entre dans le temple. Jésus est comme moi là, le pasteur. Au temple, à l'époque, les pasteurs se mettaient assis. Ce sont les gens qui étaient debout. Je ne sais pas pourquoi on a inversé ça. Nous, on est debout pendant des heures et des heures. Vous, vous êtes assis. Pourquoi? Alléluia. Alors, au temple, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait que ce sont les hommes qui sont devant. Les femmes étaient toujours derrière. On ne se mélangeait pas. Les hommes étaient devant. J'ai fait une erreur technique en allant dans la mosquée. Pas technique d'ailleurs. Je suis allé à la mosquée de Doma. Vous voyez la coupole en Israël là? La coupole là. Ouais, en or comme ça. C'est la mosquée de d'Omar. Je suis allé là-bas. C'est d'une beauté. Je ne fais pas la publicité, mais c'est beau. Quand c'est beau, il faut reconnaître que c'est beau. Hein? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, tu parles de beauté pour les Arabes. Mais c'est beau. Et j'ai fait une erreur. Je me suis assis à côté. Je suis allé dans le temple. Je me suis assis quelque part. Mais au bout d'un instant, je vois une femme qui me fait ça. Et je regarde tout autour de moi. Il n'y avait que des femmes. Et je me dis, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vois que les hommes étaient devant. Et donc, je me suis déplacé. Au temple, c'était à peu près la même chose. Les hommes étaient devant, debout. Les femmes étaient derrière. OK? Et alors, imaginez, il y a des Cassas, les Justins qui sont là, devant. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? La pauvre femme était derrière. Derrière, mais recourbé. Depuis combien de temps? 18 ans. C'est-à-dire, le pasteur, le prédicateur n'avait aucune possibilité de la voir. Le temple, ce n'est pas comme ici, c'est gigantesque. Mais Jésus a vu cette dame. C'est-à-dire, Jésus voit où que tu es, il te voit. Alléluia. Où que tu sois, il te voit. Il sait où tu es. Il te voit, il te connaît, il connaît ton problème. Alléluia. Même si tu es caché. Dans les églises, les gens veulent être vus. Si c'est juste pour être vu, tu es complètement à côté de la plaque. Moi, de toute façon, je suis vu. Vous n'avez aucune idée de la manière dont je suis vu. Je suis vu au ciel. Je suis vu même en enfer. Parce que le matin, quand je me réveille, les démons disent, ah, c'est pasteur, c'est réveillé. Hello? Tu es vu? Pourquoi dans l'église tu dois faire tout pour qu'on te voie? Fais les choses pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Juste pour la gloire de Dieu. Quand Dieu veut t'élever, il t'élèvera. Tu n'as pas besoin de faire des jeux de coude. La dame n'a pas dit, oh, laissez-moi passer un peu, je vais me tenir là devant. Non, rien. Le Seigneur l'a vu. Il lui dit, madame, tu es guérie de ton infirmité. Il lui impose les mains. Alléluia. Tout d'un coup, la femme se redresse. Mes frères et sœurs, quand le Seigneur te touche, il élargit ton horizon. Quand le Seigneur te touche, il change ta situation et ton statut. Le chef de la synagogue, il se lève et dit, hey, pourquoi guérir cette femme le jour du sabbat? Allez vous faire guérir les autres jours. Jésus lui dit, écoutez monsieur, cette femme qui est fille d'Abraham, elle est fille d'Abraham. Quand on est fille d'Abraham, on est héritière des promesses. Et quand Dieu veut te faire entrer dans ton héritage, même si le chef de la synagogue est contre toi, Jésus te fera rentrer dans ton héritage. Même si les circonstances sont contre toi, même si ce n'est pas le jour du sabbat, même si c'est le jour du sabbat, est-ce que je parle à quelqu'un? Un religieux, il dit, il a fallu se faire guérir un autre jour que le jour du sabbat. Moi, je sais que mon Dieu guérit le lundi comme le mardi. Il guérit le mercredi comme le jeudi, le vendredi comme le samedi ou le dimanche. Je sais que mon Dieu est un Dieu qui veut me bénir même en 2012. Alors, je ne dis pas, j'attendrai 2013. C'était ce jour-là. Alléluia. Il a dit, monsieur
le pasteur,
monsieur le chef de la synagogue,
cette femme est une fille d'Abraham.
Luc chapitre 13, lisez ça à la maison. Alléluia. Cette femme qui est fille d'Abraham a droit à l'héritage.
Quand tu dois entrer dans ton héritage, le Seigneur ne tiendra pas compte des gens qui veulent que tu sois guéri ou pas. Il y a des gens qui n'aiment pas que tu te maries, mais le Seigneur se passera de leur avis parce que tu dois entrer dans ton héritage.
Il y a des gens, alléluia, il y a des gens qui disent, si elle doit se marier, elle attendra 20 ans. Eh bien, Jésus n'a pas attendu un autre jour que le jour du sabbat, parce que tu as droit à l'héritage. Et quand tu as droit à l'héritage, tu as droit à cet héritage, quel que soit le jour, quel que soit le lieu, quelle que soit l'année, quelles que soient les conditions, quelle que soit l'hostilité des gens qui sont autour de toi, tu entreras dans ton héritage.
Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, il faut réclamer son héritage. Il y a des gens qui disent, Dieu a dit, Dieu m'a promis, c'est fini. Il va dormir chez lui, il ne vient plus à l'église. Un jour, il est venu, il a entendu une parole puissante, il a saisi son rhéma, il a dit, c'est terminé. Oh, le Seigneur, il a dit qu'il va me bénir. Non, non, il faut réclamer. Regardez la veuve avec les juges iniques. Alléluia. Cette veuve n'avait pas grand-chose. Elle n'avait que quelques biens qui faisaient partie de son héritage. Je ne sais pas qui avait confisqué son héritage. Si c'est en Afrique, hein, peut-être un général 4 étoiles. Tu regardes comme ça, tu rentres. De toi-même, tu vas aller contester avec un général 4 étoiles. Hello. Mais elle a dit, j'irai voir les juges. On lui dit, madame, ça ne sert à rien d'aller voir les juges. C'est un juge qui n'a d'égard pour personne. Il n'écoute personne. Il ne fera rien. Elle dit, c'est mon héritage. Parce que c'est mon héritage. Même si le juge ne fait cas de personne, n'écoute personne, n'a aucun respect pour personne, j'irai l'embêter, j'irai le tarabuster jusqu'à ce qu'il me rende justice de ma partie adverse. Ça fait partie de mon héritage. Je ne peux pas laisser mon héritage. Même si c'est un général 4 étoiles, j'irai auprès du juge. Alléluia. Comme je vous disais, les généraux 4 étoiles ne rient pas. Hein? Peut-être chez eux à la maison. Mais en dehors de la maison, il est baraqué, il est colérique. Il te regarde comme ça, toi-même, tu dis, oh non, je laisse tomber. Dernièrement, on me racontait l'histoire d'un voleur. Un voleur est entré dans une maison de quelqu'un pour voler vers les 3h, 4h du matin. Alors le propriétaire de la maison entend qu'on est en train de voler. Il se lève. C'était au Congo. Alors, il vient pour voir où est le voleur, mais il ne savait pas que le voleur était derrière lui. Alors le voleur le tapote sur l'épaule comme ça. Lui, il se retourne, il voit un type baraqué. Le voleur lui dit, yo, toi, qu'est-ce que tu fais là? Dans sa maison. Alléluia. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Le type, il regarde ce type-là tellement qu'à ça, il a peur. Il dit, j'ai cherché une bouteille vide. Il dit, j'ai cherché une bouteille vide pour aller acheter de la bière. Alors, alléluia, le voleur lui dit, dans sa maison, le voleur lui dit, à cette heure-ci, il a tellement peur, alors le voleur lui dit, allez, va dormir, et lui, avant de partir, dit, oui, vieux Mouhibi, c'est-à-dire, vieux voleur, je m'en vais dormir, c'est, alléluia. Il y a des gens, quand il a pris, il vient faire la loi chez toi. Mais cette dame, elle a dit jamais. Je parle à quelqu'un. Dans ta maison, quelqu'un te dit va dormir. Et toi, tu vas dormir, tu dis au moins, il ne m'a pas tapé, au moins, il ne m'a pas tué. Et la femme va voir les juges.
réclamer son héritage, réclamer son héritage, réclamer son héritage. En fin de compte, le juge dit non, 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 non. Cette femme est en train de m'embêter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis que cette femme entre dans son héritage. Si cette femme n'avait pas réclamé son héritage, elle aurait vécu malheureuse. Elle aurait vécu en dehors de son héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais écoutez-moi bien, et je vais revenir pour conclure dans les textes qu'on a lus. Pour que Dieu te donne ton l'héritage qui te revient, tu dois devenir mature. Tu dois devenir mature. Alléluia. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. Galates chapitre 4, verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, ni le sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Dites Amen. Il y a des gens qui réclament peut-être leur héritage, mais Dieu regarde. Et il voit qu'ils sont encore des bébés spirituels. Si Dieu te donne aujourd'hui 1 million, tu n'es pas encore mature spirituellement parlant. Tu ne viendras plus à l'église. Vrai ou faux? Non, frère. Tu commences même à téléphoner le pasteur. Pasteur, viens prendre une partie du loyer. Hein? Le pasteur doit venir chez toi prendre une partie du loyer. Toi qui as mis le loyer à l'église, tu commences à appeler le pasteur. Hein? Il te trouve assis, en train de boire du granini, en disant, oui, le Seigneur m'a béni, le Seigneur m'a béni. Mes frères et sœurs, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire que même si tu réclames, regardez, le jeune homme qui est allé réclamer chez son papa, donne-moi ma part d'héritage, donne-moi ma part d'héritage, le plus petit. Le papa, il dit, ok, prends ta part d'héritage. Il a pris l'héritage, il s'en est allé. Il a fait quoi? Il a dépensé tout dans la débauche. Boire, impressionné, et tout, jusqu'à ce qu'il est devenu pauvre, malheureux, cherchant à manger les aliments des cochons. Si tu veux que Dieu te donne ton héritage, tu dois grandir. Tu dois grandir dans la foi. Tu dois grandir dans la connaissance de Dieu. Tu dois acquérir de la maturité. La maturité spirituelle, c'est l'état qui nous permet de produire le fruit de l'esprit. On dit que quelqu'un est mature quand il est en mesure de reproduire la vie, de donner des fruits. Il y a des gens qui sont dans l'église depuis 10 ans, 15 ans. Ils sont toujours des bébés. On leur donne le biberon. Il va jouer après. Il vient au biberon. Il va jouer après. Il vient au biberon. Et il tourne en rond. Voilà quelqu'un. Ah, le pasteur, ah, maman pasteur, ah, les diacres et les anciens. Frères, quelqu'un qui a mûri, il a la vision de Dieu. Je parle à quelqu'un, il comprend les choses de Dieu. Même quand tout semble bouger, il est là à son poste. Hein? Il faut d'abord mûrir. Il faut grandir spirituellement. Ne tourne pas en rond. Il suffit qu'on dise un petit rien sur toi. Ah, ils m'ont blessé. Attends, Anne était dans la maison de Dieu priant. Les sacrificateurs, le pasteur lui dit, madame, tu es ivre. Mais Seigneur de gloire, si c'était toi, le pasteur t'était ivre. Au moment où tu es en train de prier. Je parle à quelqu'un. Et dit, madame, tu es ivre. C'est pas ici que tu dois venir étaler ton ivresse. Est-ce que Anne a quitté l'église? Elle a dit, Seigneur, je ne suis pas ivre. Je réponds ma prière devant le Seigneur. Et l'homme de Dieu constate qu'il a commis une erreur. Il lui dit, madame, l'année prochaine. Alléluia. L'année prochaine, à cette même époque, tu auras un bébé. Elle est restée. Mais si à peine elle a entendu, madame, pourquoi tu es ivre dans la maison de Dieu? Premier clic et clac. Dans cette église, on traite les gens d'ivre. Je m'en vais. Quand est-ce que l'homme de Dieu allait libérer la parole de bénédiction sur elle? Quand on devient mature, vous savez, je parle à quelqu'un. C'est comme ça que les bébés des enfants d'Israël, quand ils naissaient, on les frottait au sel. C'est-à-dire, même s'ils reçoivent des coups, Il n'y a pas de bleu. Il faut qu'on te frotte au sel. Comme ça, même quand quelqu'un dit quelque chose de méchant, non, ça rebondit. Tu es mature.
Alléluia.
Et quand tu deviens mature et que tu vas réclamer ton héritage, Dieu sait que même s'il te bénit au-delà, on te verra le dimanche à l'église. Tu resteras avec la même simplicité. Je le disais ce matin à l'église, il y a des gens, dès qu'il achète une maison, c'est comme s'il est la première personne à acheter une maison. Il vient à l'église même avec les registres de cadastre. Je parle à quelqu'un. Attends. À peine tu as eu une petite maison de deux chambres à Kouem. À Kouem. Mais si Dieu t'avait donné. Je ne néglige pas Kouem. C'est un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Imagine maintenant. Hello. Imagine maintenant que Dieu te donne un appartement sur l'avenue Louis. Vous voyez, c'est-à-dire que tu ne viendras même plus à l'église. Tu ouvres la fenêtre à Louise et tu commences à chanter pour que tout le monde voit. Ça, c'est de l'immaturité. Dites amen. Pour que Dieu te donne ton héritage, tu dois mûrir. Tu dois être en mesure de comprendre la volonté de Dieu. Tu dois être en mesure de rester simple et humble comme tu l'es aujourd'hui. Tu es en mesure de produire le fruit de l'esprit. Tu as l'amour de Dieu dans ton cœur. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu es mûr. Alors Dieu peut te donner. Parce qu'il sait d'ailleurs que cet héritage, tu vas bien le gérer. Amen. Tu ne vas pas te mettre à le distribuer à n'importe qui. Tu arrives dans un bar, ça te prend par la tête. C'est ma tournée. Même des gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes frères et sœurs, la maturité. Nous devons mûrir. Il y a des gens qui sont bébés, il est là, il tourne. Il tourne, il est bébé spirituel depuis des années. Mais quand il chante, vous dites là, formidable. Il est bébé. Quand un enfant ne grandit pas, il devient un monstre. Et alors, pour prendre possession de notre héritage, il faut que nous devenions, nous quittions les stades d'enfant. Quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu mature, je ne raisonne plus comme un enfant. Je comprends les réalités de Dieu autrement. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime le Seigneur différemment. Je comprends sa volonté à une autre échelle. Et là, Dieu peut dire à celui-là, si je lui donne son héritage, ce qui lui revient, il ne va pas le dilapider. Il ne va pas devenir orgueilleux hautain. Hautain, je le disais ce matin à l'église. Il y a des gens, dès qu'il achète une certaine marque de voiture, il faut que tout le monde le sache. Ce jour-là, il peut faire le plein, commencer à visiter les frères et sœurs. C'est parce qu'il veut qu'on voit. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est de l'immaturité. Le Seigneur voit, le jour où il va te donner un jet, c'est fini. Il faut grandir. Aussi, la Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Parce que l'esclave n'hérite pas. Donc tu ne peux pas hériter. Il faut que tu mûrisses. Et quand tu as atteint l'âge de la maturité, tu réclames ton héritage, le Père t'en donne. Alors revenons à notre texte. Deux rois. Chapitre 8. Il faut que je fasse vite. Ah, vous voyez, je disais, je fais de l'effort de ne pas être très long, mais c'est pas croyable ça. Amen. Élisée dit à une femme, de quelle femme s'agit-il? C'était une femme de distinction. Vous la connaissez bien. C'est cette femme qui un jour a vu Élisée, elle est allée voir son mari et elle dit, hé chérie, ça c'est un homme de Dieu. Je voudrais que chaque fois qu'il vient ici à Sunem, il n'aille pas chercher où loger, gauche, droite, tout ça. Non, on va les loger chez nous. On va lui emménager une chambre, comme ça, chaque fois qu'il vient ici, il va dormir là-bas, il va manger là-bas, il sera bien. Elle était mariée à un homme qui avait beaucoup de champs. beaucoup de bien. La Bible nous dit, chaque fois qu'Élisée allait à Sunem, il restait chez cette dame. Un jour, il regarde la dame, il dit, « Ah, cette dame nous a fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle ?» Son serviteur lui dit, « Mais tu ne vois pas, c'est une dame qui n'a pas d'enfant. Ils ont tout, mais elle n'a pas d'enfant. » Vous savez, on peut avoir tout, mais il y a des biens que l'argent ne peut pas acheter. Elle avait tout, mais sa richesse ne pouvait pas lui donner des enfants, le fruit de ses entrailles. On peut adopter, vous allez me dire, oui. Alors Élisée lui dit, Madame, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un bébé. Et ce garçon est né comme ça par miracle. Alléluia. Il grandit, il atteint l'âge d'environ 12 ans. Un jour, il va voir son père au champ qui commandait les ouvriers qui travaillaient et tout et tout. Et il dit, papa, j'ai mal à la tête. Alors le papa qui dit à un des ouvriers, allez, prends le garçon, ramène-le chez sa maman. On prend l'enfant, on l'amène chez la maman. La maman l'amène sur ses genoux. Je crois que cette femme était en train de prier. Elle a dit, Seigneur, c'est un enfant que tu m'as donné. Oh Dieu, non. Non, non. Elle était là. Parce qu'elle ne l'a même pas emmenée à l'hôpital. La Bible dit, à midi, paf, le garçon est décédé. Le garçon est mort sur les genoux de sa maman. Vous savez, il y a des femmes qui sont terribles. Elle prend le bébé, elle va le mettre dans la chambre d'Élisée. Il dit, Élisée était quelque part dans les environs. Il dit, hein, je vais aller voir l'homme de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on a signé les contrats. Je n'enterre pas mon bébé. Vous savez combien nous enterrons nos bébés très tôt? Nous enterrons nos projets très tôt. Nous enterrons nos rêves très tôt. Dès qu'il y a un petit problème, oh, on laisse tomber. Frère, ne laisse pas tomber. Quand Dieu t'a donné un rêve, quand Dieu t'a donné une vision, même s'il y a des difficultés momentanées, n'enterre pas ton projet. N'enterre pas ton rêve. N'enterre pas ton bébé trop tôt. Et laisse le bébé, il va voir l'homme de Dieu. Et ben, pour faire bref, l'homme de Dieu vient, ressuscite le garçon. Il le donne à sa maman. Oh, c'est merveilleux. Quelques temps après, Élisée vient voir la femme. Il dit, Madame, c'est comme si le sort veut s'acharner contre toi. Quitte ce pays. Il y aura sept années de famine terrible. Si tu restes ici, avec ton garçon, vous allez mourir. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que Dieu nous parle? Je vous assure que Dieu nous parle. Il y a des gens qui rêvent que Dieu leur parle. Mais Dieu nous parle. Quand tu es tout le temps en train de blablater, c'est ça hein, qu'on dit, hein, à longueur de journée, tu ne peux entendre quelqu'un que quand tu ne parles pas. Quand tu es trop bavard, en train de critiquer tout le temps, de calomnier tout le temps, dans les bruits, dans les milieux bruyants et tout, tu ne peux pas entendre Dieu te parler. Il faut exercer ton oreille. Et Dieu parle à Élisée, et Élisée vient voir la dame et lui dit, écoute madame, pars, parce que la famine vient. La dame prend son garçon, elle part au pays des Philistins. Et là, elle demeure 7 ans. Et là, 7 ans s'écoulent, elle revient. Quand elle arrive à Sunem, elle trouve quoi? On a pris son champ. On a pris sa maison. On a bloqué son compte en banque. On a tout pris, tout. On a pris son héritage. Ce qui lui revient de droit. Et là, cette femme pouvait se dire, oh, je vais m'en sortir comment? Elle dit, je vais aller voir le roi. Je vais aller réclamer mon héritage chez les rois. Mes frères et sœurs, pendant ce temps, le serviteur d'Élisée était au palais royal, en train de parler avec le roi. Le roi lui dit, raconte-moi un peu tous les miracles qu'Élisée a fait. Alors, il était en train de raconter les miracles, Et puis, on voit cette femme. Moi, je m'imagine, la Bible ne le dit pas, mais j'imagine que cette femme était mal famée. Elle n'était pas très bien habillée. Une veuve, d'ailleurs, je crois qu'on ne parle plus de son mari. Peut-être que son mari était mort ou l'avait abandonné parce qu'il y a des hommes irresponsables. Lui, il fabrique les bébés, il les laisse aux femmes et ils partent. C'est vrai qu'il y a des hommes irresponsables. On ne parle même plus de son mari. Où il est? Frère, ne fais pas de bébés aux gens pour les laisser partir. Non, mais dites amen. Amen. Quand les choses vont mal, tu n'es pas le papa. Le jour où cette femme veut se marier à un ministre, tu dis, c'est moi les géniteurs. C'est moi les... Quel géniteur? Mais parce qu'on est enfant de Dieu, hein, tu dis, ça fait rien, frère. Viens, prends la dot. Prends la dot. Les hommes, je parle aux hommes, soyons responsables. Alors la femme vient chez le roi. Et le roi lui dit, madame, qu'est-ce que je prie pour toi? Elle dit, roi, j'avais un héritage. J'avais des biens, j'avais des maisons, j'avais des champs, j'avais de l'argent, j'avais tout dans ce pays. Le serviteur de l'homme de Dieu est là. Et il lui dit, mais pourquoi tu as quitté ce pays? Il dit, mais Sa Majesté, je n'ai pas quitté le pays de mon plein gré. L'homme de Dieu m'a dit, c'est sur base de la parole de l'homme de Dieu que je suis parti. Alors dis-moi ce qui s'est passé. Et la femme réclame son héritage, réclame son héritage. Le roi l'entend. Mes frères et sœurs, imaginons que cette femme n'avait pas réclamé son héritage, n'était pas allée chez le roi pour réclamer ce qui lui revenait, mais qui avait été confisqué. Qu'est-ce qui se passe? Le roi appelle un ministre, un eunuque. Il dit, viens, vous allez restituer à cette femme tout ce qui lui revient, tout ce qui fait partie de son héritage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas du tout. Le roi dit en plus ceci. Vous allez lui restituer son héritage, mais vous allez calculer les arriérés de 7 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on vous donne l'héritage au temps T égale 0, et on vous donne les arriérés au temps T égale moins 7. Non, vous n'avez rien compris. C'est-à-dire que vous n'entrez pas en possession que de l'héritage du temps présent, mais vous bénéficiez également de tous les arriérés des années passées. C'est-à-dire finalement, cette femme est entrée dans son héritage et a bénéficié de 7 ans pendant lesquels il y avait la famine. C'est comme si elle n'avait pas la famine. Simplement parce qu'elle est allée réclamer son héritage. Quand tu réclames ton héritage, il se pourrait que les années ont été décalées. Dieu te remplacera les années. Quand dévorer les sauterelles et les gélèques, Dieu te donnera ton héritage. En plus des arriérés, il te donnera ton héritage. Il faudra le réclamer. Alléluia. Je termine avec un verset. Ésaïe 42, 22, je termine. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. La Bible dit, il y a de ces chrétiens qui sont comme ça. Ils sont enchaînés. Ils sont dans des prisons. On les a dépouillés. On les a pillés. On a pris ce qui leur revient. Nous sommes là. Il n'y a personne qui dit restitue. Cette dame est allée voir le roi. Elle a demandé la restitution. Je voudrais que ce soit. Quelqu'un se lève et dise à Satan, tu as pris mon héritage. Je ne veux plus attendre. Mon héritage est là. Tu l'as confisqué. Tu l'as pillé. Tu m'as dépouillé. Ce soir, je viens réclamer la restitution de mon héritage. Ce soir, je viens prendre possession de ce qui me revient de droit. Je viens réclamer ce qui est à moi. Je ne peux pas vivre en dehors de mon héritage. Je ne veux pas vivre en dessous de mon héritage, à côté de mon héritage. Je viens ce soir. À partir de ce soir, il faut que quelque chose change dans ma vie. Tu voyais peut-être qu'il faut 5 ans. Tu voyais peut-être qu'il faut l'année prochaine. Cette femme, quand elle est rentrée, la 7e année, la même année, elle n'a pas attendu 1 an, elle n'a pas attendu 2 ans, elle est allée pour réclamer son héritage. Et le roi a dit, donnez-lui sa maison, donnez-lui ses biens, donnez-lui son argent, mais bien plus encore, donnez-lui, calculez les arriérés. Calculez pour elle les arriérés. Ça veut dire pendant que les autres souffraient, pendant que les autres peinaient, oh, Dieu était en train de stocker, de mettre sur un compte épargne en sa faveur. En sorte que quand elle est revenue, on lui a donné son héritage, pas simplement son héritage, mais avec les arriérés de 7 années de famine. De 7 ans, mes bien-aimés frères et sœurs. Quand nous réclamons notre héritage, nous entrons dans l'abondance de Dieu. Quand nous restons les bras croisés, nous disons Dieu m'a promis. Il y a des gens ici, Dieu a pillé leur héritage. Le diable a confisqué ce qui leur revient. Ne sois pas là distraite en te disant, oh de toute façon ça se fera. Ça ne se fera pas. Ça risque de ne pas se faire. Il y a des moments où tu regardes ta situation et tu dis, mais c'est pas possible. Ça ne doit pas continuer comme ça. C'est comme si je suis enchaîné. C'est comme si je suis au cachot. C'est comme si je n'ai pas droit à l'héritage. J'ai droit à l'héritage. Alors Père, comme la femme est venue auprès du roi, moi je viens auprès de toi. Si c'est Satan qui m'a pillé, je vais lui dire, restitue. Restitue ce qui est à moi. Restitue ce qui appartient à mes enfants. Restitue ce qui revient à mon mari. Restitue, restitue. Alléluia. Il faut que quelqu'un se marie. Alléluia. L'année 2013, qu'il y ait des mariages dans l'église. Nous allons réclamer la restitution. Alléluia. Alléluia. Si ce jeune homme est bloqué quelque part par les diables, je ne sais où, même si c'est tout Tibet, il doit venir ici. Il faut que nos sols le rencontrent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous allons réclamer la restitution. Nous allons couper les chaînes. Nous allons libérer les prisonniers. Parce que peut-être ces gens-là sont ceux que Dieu a mis sur notre route pour nous propulser au loin. Alors nous allons ouvrir les portes des cachots. Nous allons ouvrir les portes des cavernes. Et nous allons dire à Satan, restitue. Restitue. Restitue ce qui est à moi. La santé fait partie de mon héritage. Restitue. Le mariage fait partie de mon héritage. Restitue. Le travail fait partie de mon héritage. Restitue. 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 Lève-nous. 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 Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Commence. Commence maintenant à réclamer ton héritage. Commence à réclamer ton héritage. Prie pour que tu entres dans ton héritage. Pour que tu vives ton héritage. Pour que tu possèdes ton héritage. Alléluia. 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 Réclame ton héritage. Réclame la restitution. Tout ce qui a été pillé. Tout ce qui a été volé. Réclame, réclame ton héritage. Tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Tu as droit, tu as droit, tu as droit. Tu as droit à l'héritage. Tu as droit à l'héritage. Tu as droit, tu as droit, tu as droit. Tu as droit à l'héritage. Tu as droit à l'héritage. Tu as droit à l'héritage. Réclame. Réclame la restitution. La restitution. Et les arriérés, toutes les années que cet héritage a été confisqué, a été volé, que tu jouisses des arriérés, que tu possèdes le fruit des arriérés de ton héritage, des arriérés de ta bénédiction, que tu en profites pleinement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous réclamons le mariage. Dans cette église, au nom de Jésus, nous réclamons le travail, au nom de Jésus, nous réclamons le séjour de ton peuple, au nom de Jésus, que Satan restitue, que le voleur restitue, que le pilleur restitue, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Réclame ton héritage. Réclame. Tu dois dire non, 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 non. Non, je ne vais plus tourner en rond. Je ne vais plus tourner en rond. Maintenant, je vais posséder mon héritage. Maintenant, je vais posséder mon héritage. Je vais le réclamer jusqu'à ce que on me le donne. On me le donne. Je ne me laisserai pas intimider. Je ne me laisserai pas effrayer. Je ne me laisserai pas intimider par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Je réclame parce que c'est mon droit. Je réclame parce que c'est mon héritage. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ne vis pas à côté de ton héritage. Ne vis pas en dehors de ton héritage. Réclame ton héritage. Demande la restitution à l'ennemi. Vois-toi comme Dieu te voit dans son miroir. Tu as un statut spécial. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Héritier de Dieu. Co-héritier avec Christ. Héritier des promesses données à Abraham. Tu ne dois pas vivre malheureux et miséreux alors que quelqu'un détient ton héritage. Alors que quelqu'un a confisqué, a pillé ton héritage. Demande la restitution. À partir de maintenant, quand tu pries, n'oublie pas de prier pour la restitution de ce qui te revient. Dis à Satan, je t'ordonne de restituer. Et va vers le Seigneur pour lui dire, on a pris mon héritage, Père. Je viens auprès de toi. Ordonne! Donne un ordre à un eunuque. Donne un ordre à un eunuque. Pour que ce qui est à moi me soit donné. Je veux le posséder. Et que Dieu donne, te donne avec les arriérés. Il y a des gens en ces lieux. Ils auraient été maîtres de leur héritage depuis plusieurs années. Mais cet héritage est confisqué. Je prie que Dieu vous l'accorde et vous donne avec des arriérés. Je prie que Dieu vous prolonge le jour. Je prie que Dieu vous donne l'enjouille au nom de Jésus-Christ. N'attends plus plusieurs années pour dire « Dieu me bénira ». Il est le Dieu du présent. Il s'appelle « Je suis ». Il est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, nous prions pour que ton peuple entre dans son héritage. Nous te demandons, éternel notre Dieu, ordonne. Tu as dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir et les corbeaux ont obéi. Quand le roi a donné l'ordre à l'eunuque a obéi. Seigneur, ordonne maintenant en faveur de mon frère. Ordonne maintenant en faveur de ma sœur. Même si c'est aux anges que tu donnes cet ordre, qu'ils emmènent la bénédiction, qu'ils emmènent la part d'héritage qui revient à ton peuple, à mon frère et à ma sœur. Seigneur, je prie que tu libères cet ordre aujourd'hui. Que l'ordre soit donné, que l'ordre soit donné, que l'ordre soit donné. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai dit l'ordre est déjà donné. L'ordre est donné, l'ordre est donné pour que tu possèdes ton héritage et ta bénédiction. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Tu es digne. Glorifie ton nom et bénis ta parole dans nos cœurs. Nous te prions ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Disons tous Amen. Un bon Amen. 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 Amen.